Bonjour, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios Rémi Leloup. Bonjour à vous.
Bonjour à tous.
Alors vous nous venez de Navenne et vous êtes venu nous parler dans le cadre de conférences que vous produisez également toutes les semaines d'un sujet sur les arbres sacrés aujourd'hui qu'on pourra développer.
Oui. Donc je me présente, pour Rémi Leloup, ingénieur du bois en retraite depuis 8 ans et je continue dans le cadre de l'université ouverte à parler d'un péché mignon que j'ai toujours au fond de moi-même, c'est-à-dire le bois, les arbres. Et là, aujourd'hui, on peut parler justement des arbres sacrés, des forêts sacrées.
Alors, on pourra souligner qu'il s'agit d'une conférence que vous avez produite récemment.
C'est-à-dire que mes conférences, j'en fais une toutes les semaines, le jeudi soir à Besançon. Mais celle-ci, donc, pas mal d'associations me la demandent pour illustrer une manifestation, que ce soit chez les agriculteurs en retraite, que ce soit pour d'autres manifestations.
D'accord.
Donc, elle plaît beaucoup parce qu'il y a énormément d'arbres sacrés en Haute-Saône.
D'accord. Alors, pour les gens qui s'intéresseront à ces conférences, comment vous retrouvez ? Il ne s'agit pas de l'université ouverte en Haute-Saône, vous parliez de Besançon.
Oui, mais disons qu'il y a aussi l'université ouverte à Vesoul, mais je l'ai déjà faite il y a quelques années, donc il faut attendre encore un peu pour la refaire. Il ne faut pas non plus saturer les gens.
On rentrera dans le vif du sujet après cette prochaine pause musicale.
J'avais le plus bel amandier du quartier. J'avais le plus bel amandier du quartier. Et pour la bouche gourmande des filles du monde entier, je faisais pousser les amandes, le beau, le joli métier. Un écureuil en jupon dans un bon, un écureuil en jupon dans un bon, va me dire je suis gourmande et mes lèvres sentent bon, et si tu me donnes une amande, je te donne un baiser fripon. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Grimpe aussi haut que tu veux, que tu peux. Et tu croques et tu picores, puis tu grignotes et puis tu redescends plus vite encore, me donner le baiser du. Quand la belle eut tout rongé, tout mangé. Quand la belle eut tout rongé, tout mangé. Je te paierai, me dit-elle, à pleine bouche, quand les nigauds seront pourvus d'elle et que tu sauras voler. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Monte m'embrasser si tu veux, si tu peux. Mais dis-toi que si tu tombes, je n'aurai pas la larme à l'œil. Dis-toi que si tu succombes, je ne porterai pas le deuil. Les avais bien entendues, toutes mordues. Les avais bien entendues, toutes mordues. Toutes grignotées, mes amandes, ma récolte était perdue. Mais sa jolie bouche gourmande en baiser m'a tout rendu. Et la fête dura tant le beau temps. Et la fête dura tant le beau temps. Mais va l'automne et la foudre et la pluie et les autans ont changé mon arbre en poudre et mon amour en même temps.
Bien, bonjour à tous et merci d'être à cette causerie. Donc, pour moi, c'est une causerie qui n'a rien de sacré, mais qui est une simple approche de ce que l'arbre a représenté depuis toujours pour l'homme. Alors que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, en Australie, en Europe ou en Amérique. Bien sûr, je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste des religions anciennes ni des arts sacrés, mais je veux simplement vous faire partager aujourd'hui ma passion pour l'arbre à travers tous les documents que j'ai découverts pendant mes années où j'ai exercé à Besançon la faculté des sciences, et puis jusqu'à nos jours. Alors, ni exhaustive ni le fait d'un spécialiste, cette causerie tentera quand même de vous montrer comment chez tous les peuples depuis les origines un lien très fort a rattaché le destin des hommes à celui des arbres. Et encore aujourd'hui et un peu partout dans le monde, l'arbre fait partie de notre patrimoine culturel et environnemental et il continue d'être l'objet d'une vénération particulière. Je commencerai par les arbres sacrés, donc l'arbre des origines. Je m'appuierai sur une réflexion de Bross qui disait que l'humanité a comme souvenir un arbre géant qui s'élevait au centre de la terre jusqu'au ciel. Alors cet arbre unissait les trois mondes. Ses racines s'enfonçaient dans les souterraines abîmes et ses plus hautes branches atteignaient l'Empyrée, la partie bien sûr la plus élevée du ciel habitée par les dieux. Alors grâce à l'arbre était devenu respirable et toutes les créatures qui purent apparaître sur terre, il dispensait ses fruits nés du soleil et de l'eau qu'il puisait dans le sol. Alors bien sûr par lui la foudre dont les hommes firent le feu descendait du ciel et sa cime rassemblait donc les nuages et invitait les pluies fécondes à tomber. L'arbre était source de toute vie et de toute régénérescence aussi. Donc ça, c'est l'arbre des origines.
D'accord. Alors, cet arbre des origines, cet arbre géant, vous citiez un certain Bross.
Oui. Donc, c'était... j'avais pris l'idée, pour avoir, c'est Jacques Bross, qui avait fait un article dans une revue de l'UNESCO... Et ça m'avait frappé, et j'avais pris un peu le... Parce que je voulais montrer aux étudiants qu'il n'y avait pas que de la technique, qu'il fallait aussi avoir un peu d'humanité dans les réflexions. Et donc l'arbre me proposait justement ce genre de réflexion.
D'accord.
Alors on conçoit la vénération que lui portèrent jadis les hommes. Il faut savoir que dans la brûlante Égypte régnait le sycomore. C'était l'arbre nourricier, un arbre sacré dont la déesse Nouf, ou Nout, comme vous voulez, émerge pour offrir aux morts la nourriture pour l'éternité. La déesse fait partie intégrante de l'arbre sycomore représenté sur la tombe de Senedjem près de Thèbes, donc au 15e siècle avant Jésus-Christ. Alors on faisait des suppliques au sycomore pour obtenir des moissons abondantes et des fruits de qualité. Alors ce sycomore, il ne faut pas le confondre avec notre érable sycomore, c'était le Figus sycomorus, qui était un figuier aux feuilles de mûrier et qui croît en Égypte et en Syrie. C'était le figuier des pharaons, le grand figuier dans lequel on fabriquait des cercueils royaux. Et donc cette déesse qui sortait de l'arbre et qu'on représentait aussi même dans les tombes pour permettre donc à permettre le voyage, c'est-à-dire que on dessinait et on faisait des sculptures ou des peintures dans le tombeau qui permettaient donc aux morts de voyager à l'abri de palmiers, à l'abri de végétaux et de sources merveilleuses et d'arbres magnifiques avec des fruits magnifiques pour permettre le passage de la mort donc à la vie éternelle.
D'accord. C'est exactement ce... Je voulais vous demander quel était ce sycomore, si c'était un arbre qu'on retrouve à l'heure actuelle en Occident, mais vous avez déjà anticipé sur cette question puisque vous faites la distinction entre notre érable et ce figuier antique.
Oui, parce qu'on dit bien le figus sycomorus, parce qu'on l'appelle le sycomore, mais ce n'est pas notre sycomore de chez nous. Donc c'est plutôt figuier aux feuilles de mûrier. Voilà.
D'accord. Alors il y a d'autres origines antiques que vous bien avez sûr, développées.
Oui. Vous avez dans la glaciale Scandinavie, donc des Germains, régnait le frêne, qu'on appelait Yggdrasil. C'était le frêne cosmique. Alors celui-là, il soutient le monde, sa cime atteint l'Empyrée et ses racines communiquent la source de toutes les eaux et le séjour des morts. Il est bien précisé que le cerf mange ses feuilles et le serpent ses racines. Et c'est de son bois qu'on fabrique depuis la haute antiquité les lances des chevaliers. Alors chez les Grecs et les Romains, et selon la tradition scandinave, des rameaux de frêne disposés en cercle autour de la maison écartaient les serpents. Et d'ailleurs plus récemment, en Franche-Comté, une branche de frêne posée devant la porte du fils de la maison celui-ci à sortir du giron familial et à aller fonder une famille. Ça voulait dire, bon, maintenant t'es un peu vieux, hein, va voir un peu ailleurs, créer ta propre famille.
Il s'agit de ces rites de la fécondité, peut-être
Non, non, c'était des rites de Franche-Comté où on mettait sur la porte, par exemple, je ne sais pas, vous avez des amis qui ont plus de 25 ans, hein, ou une Catherinette, eh bien, on dépose devant sa porte donc des branches donc de frênes. Pour ce qui veut dire, gentiment, eh bien, écoute, maintenant, il serait peut-être temps d'aller fonder une famille ailleurs.
Voilà. Très bien, très bien. Bonne information.
Voilà. Alors, bien sûr, aux yeux des Celtes, parce qu'il y a beaucoup d'origines celtes, hein, je vais souvent vous en parler, parce qu'il y a énormément de références aux Celtes. Le frêne, il symbolisait le cycle éternel. Donc la vie, la mort et surtout la réincarnation, cette mouvance circulaire montrait déjà le cercle de vie du savoir et de l'espace. Je rappelle qu'en Algérie, chez les Kabyles, dans le Djebel Bador, le frêne est la demeure des saints protecteurs. Hommes et femmes accrochent des amulettes, des offrandes aux branches du frêne, et puis où déposent des vœux écrits sous les pierres, au pied du tronc, pour que leur apporte, par exemple, l'amour, hein, ou la réussite à l'examen. Ça se fait encore, vous voyez. Donc ces arbres ont des pouvoirs qui restent magiques un peu tout le temps de la vie des hommes, quoi.
D'accord.
Par exemple, en Chine, c'est le bois dressé qui se tenait au centre de l'empire du monde, hein. Il est recommandé par le parti, quand un Chinois construit, de planter au milieu de sa concession un Ginkgo biloba, cet arbre aux mille vertus, qui existe depuis plus de 250 millions d'années et qui fut le seul survivant à Hiroshima et à Nagasaki. Hein. C'est le seul arbre qui a résisté donc à la bombe atomique. Pour ceux qui habitent en immeuble, eh bien, les Chinois ont inventé les bonsaïs grâce à une technique de ramification reprise par les Japonais qui en ont fait un art. Eh bien, ces arbres, vieux de plus d'une centaine d'années, trônent au centre de la pièce principale, comme le bois dressé au centre de l'Empire chinois. Donc, il faut savoir que les bonsaïs que vous voyez sur les marchés ou dans les belles boutiques des fleuristes, eh bien, ont une signification très
lointaine.
Très lointaine et puis surtout très forte, parce que je vous dis, dans chaque concession, il y avait l'arbre au centre de la concession qui retenait l'empire chinois. Donc c'était, vous savez, c'est un peu comme une antenne. On est à la radio, vous avez une antenne donc qui est reliée au sol et puis qui s'en va dans le ciel. Donc c'est c'est l'antenne entre la Terre et puis le monde céleste.
On retrouve donc la première partie de l'arbre géant des origines avec des racines bien ancrées.
Exactement.
Et une tête bien dans les airs.
Voilà. Et puis vous avez aussi, chez les anciens Mexicains, vous avez l'arbre cosmique qui jaillit ici, multicolore. Alors bien sûr, il disait la déesse Terre. Hein. Alors les écorces des arbres ont des couleurs multicolores resplendissantes. Et justement, vous avez la forêt qui se pare de mille feux pour recevoir les dieux. Alors, dans les marais des Everglades en Floride, les troncs de cyprès sont ornés d'orchidées et recouverts de lichens rouges. Alors, c'est magnifique. Quand vous voyez ça, vous dites, ah oui, bien, eh bien, c'est la parure pour les dieux. Donc, tout ça, c'est interprété par les Mexicains, même les Américains du Sud, hein. Chez tous les Africains, alors là je peux vous dire que chez tous les Africains, sans exception, l'arbre sacré est encore vénéré. Hein, vous avez le Kilena chez les Dogons au Mali, le Balanza chez les Bambara et les Mandingues au Sénégal, et même au Mali. Et puis vous avez l'Az, l'Iroko chez les Dahoméens, donc maintenant qu'on appelle les Bénins, au Bénin. Hein. Donc il faut savoir que le dieu africain Loco transmettait l'haché, c'est-à-dire l'énergie à travers l'arbre sacré. Alors Loco, Iroko, vous voyez, il y a une certaine ressemblance, aujourd'hui toujours lieu de prière et de sacrifice. Mais il faut savoir que cet arbre africain ne pousse pas au Brésil. Et aussi, pour honorer le dieu Loco, les anciens esclaves qui sont partis, qui ont été pris donc au Dahomey à l'époque, mais qui s'appelle le Bénin, et bien quand ils sont partis donc au Brésil, ils ont voulu continuer leur rite pour le fameux dieu locaux. Alors, les anciens esclaves, ben, ils ont choisi un arbre similaire. Quand on compare ces arbres-là, hein, avec le, ils l'appellent le matapo, c'est un peu l'iroquois de leurs origines, hein, et qui incarne ce dieu vers qui on vient prier. Et vous avez au pied de cet arbre, donc le matapo, hein, pao veut dire l'arbre, hein, donc pao rosa, donc l'arbre, comment, le bois de rose, hein, le pao amarelo, c'est en portugais, donc c'est le bois jaune. Alors donc le matapo, eh bien, vous avez des offrandes, et vous voyez des gens qui viennent prier et donc implorer, présenter d'abord, un peu comme une confession, on vient, raconter sa vie à l'arbre, hein, et l'arbre va prendre un peu tout votre malheur, hein, et va le monter par la sève montante jusque dans la sommet de ses feuilles, et donc va transmettre votre message dans les cieux. Donc c'est encore valable encore aujourd'hui.
J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée, dans sa bonne vieille tête de pipe. J'ai des pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme, j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne, Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter les yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'emmenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes, je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes. Il y a 107 ans qu'il dit mieux que j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Nous revenons avec Rémi Leloup au sujet des arbres sacrés. Nous abordons ce lien, l'arbre sacré, en tant que lien entre les dieux et les hommes, une voie de communication entre ces deux espèces, si je puis dire.
Oui, bien sûr, hein, puisque je vous ai dit que l'arbre ancestral était le séjour des dieux et des hommes. Alors voyons maintenant, donc, l'arbre sacré, un lien entre les dieux et les hommes. Alors le plus souvent, un dieu faisait de l'arbre sa résidence terrestre. Il le rendait dès lors sacré. Donc, il s'adressait aux hommes à travers lui. N'oubliez pas qu'en Grèce, dans le sanctuaire de Dodone, le dieu Zeus rendait ses oracles par le bruissement des feuillages des chênes du bois sacré. Bien sûr, les dieux descendent vers les hommes grâce aux arbres, mais les hommes peuvent essayer d'atteindre le ciel pour les y rencontrer. Il faut savoir qu'on ébranche le poteau sacré en Australie. Les Yakouts escaladent de Mélèze en Sibérie orientale. Le chaman escalade de Bouleau en Sibérie septentrionale. Alors, il faut savoir que le chaman se réservait un bouleau de 7 à 9 branches pour escalader l'échelle de la connaissance. Quand il arrivait à la 6e, il vénérait la lune argentée, à la 7e, le soleil, toujours doré, et finalement à la 9e, il se prosternait devant le dieu suprême. Les Toronja escaladent le poteau sacré posé contre la falaise nécropole pour déposer les statuettes en bois sur le lieu de sépulture. En faisant la moitié du chemin avec eux, ils sont sûrs que leurs ancêtres montent aux cieux.
Alors on se rend compte qu'on avance dans le temps, depuis l'Antiquité, ces rites évoluent et ces rites sont partout présents sur la planète.
Ah, partout, vous le oui, voyez, moi je vous parle de la Sibérie, je vous parle de l'Australie. Alors vous savez que même encore en maintenant, dans les steppes de l'Asie, non pas de l'Asie centrale, mais disons dans les grandes forêts du RSS, eh bien il y a des rites. Par exemple, les jeunes filles choisissent d'un village, choisissent un bouleau, vont l'ébrancher, vont le faire couper par un garçon et vont entourer leur tête avec l'ébranchage du bouleau. Et ce bouleau, bien sûr, va leur servir de décoration. Et une fois qu'il est complètement ébranché, eh bien, ils demandent aux garçons, aux jeunes garçons, de le planter. Et ces garçons doivent aller au sommet pour chercher, non pas la jarretière de la mariée, mais disons un ruban d'une jeune fille. C'est un moyen de communication et d'aguerrir certains garçons qui sont timides pour justement permettre donc les relations entre filles et garçons. Ça existe encore à l'heure actuelle. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, devant chaque maison individuelle, devant les pavillons, vous voyez ces fameux trois bouleaux. Vous croyez que ça a été planté comme ça, trois bouleaux? Non, il y a une connotation. Ça veut dire, ces trois bouleaux, c'est-à-dire que cette maison n'a pas le mauvais œil. Vous pouvez venir, vous pouvez frapper à la maison, on va vous accueillir, on va vous offrir un verre d'eau, on peut même vous offrir le repas et le coucher. Donc, mais les gens ne savent pas la connotation de ces trois bouleaux que vous voyez devant chaque concession, là ou devant chaque bout de terrain, devant la maison. Eh bien, ces trois bouleaux ont un sens vraiment très fort.
C'est lié à l'hospitalité et puis...
Voilà, oui, et surtout la protection. Ils protègent la maison et puis ça sert d'antenne aussi, vous voyez. Donc je vous parlais d'antenne entre les hommes et le ciel. Et puis ça aussi, comme c'est des arbres qui poussent très haut, beaucoup, pour éviter qu'ils poussent de très haut, les font couper. Mais ils peuvent servir, bien sûr, de paratonnerre. Parce que, au lieu que la foudre tombe sur la maison, tombera sur le bouleau et protégera la maison.
Alors, si je suis bien votre plan, on en arrive au moment où on peut dire que tous les arbres avaient une âme, ont une âme et sont habités par des esprits.
Bien sûr, tous les arbres avaient une âme, ils étaient habités par des esprits dont ils formaient le corps. Aussi, on ne pouvait pas couper un arbre sans avoir prié ceux-ci de s'en retirer. Toujours, c'est toujours valable, surtout en Afrique, donc où j'ai quand même travaillé. Les compagnies forestières, avant de rentrer en forêt pour couper des arbres, étaient obligées de tenir ce qu'on appelle des tenues de palabre. Donc avec les sages et les notables du village, avant de rentrer dans la forêt. Et c'était là qu'il fallait se réunir. Donc c'est souvent qu'on se réunissait sur l'arbre à palabre, parce que dans chaque village, il y a un arbre à palabre. Ou alors, il y avait maintenant, ça, il doit y avoir quand même des maisons, comme ici, des maisons de quartier, ou la maison du chef. Et on se réunissait là, le soir, à 6 heures, et on définissait, bien sûr, la contrepartie, puisque les forestiers allaient abattre des arbres. Ces arbres étaient habités par des dieux, ou des génies de la forêt, et il fallait vraiment les prier de partir, mais on donnait des compensations. Alors je me souviens d'avoir participé à cette tenue, de palabre. On arrive avec, bien sûr, de la boisson. D'ailleurs, on avait le rhum Saint James, la bouteille carrée, parce que c'est
comme ça, l'esprit de l'alcool restait bien enfermé. C'est pas une bouteille ronde. Tout ça, c'est un symbolique, hein, voyez. Donc, et on arrosait devant la porte un peu de ce produit, de ce rhum St. James, hein, pour dire, bah, écoutez, les mauvais esprits ne rentreront pas dans notre réunion. Et donc, bien sûr, on partageait le vin, hein, la Guinness chaude, hein, la cervoise tiède, hein, puisqu'il n'y avait pas de frigo dans le coin. Et puis donc on arrivait au but donc du palabre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire en échange, hein, pour remercier les dieux de la forêt. Alors est-ce qu'on va faire une école, est-ce qu'on va faire une adduction d'eau, est-ce qu'on va construire un dispensaire, voyez. Donc il y avait les contreparties accordées aux esprits de la forêt.
D'accord, il y a toujours ce respect.
Ah bien sûr, oui, il fallait, oui, il y a bien sûr, quand vous avez été un arbre, il y avait le marteau forestier, il y a le forest guard qui est là pour surveiller, mais il y a aussi la contrepartie au village qui appartient à la forêt. Alors, d'ailleurs, vous avez Ronsard, grand poète français du XVIe, qui se fait l'écho de ses croyances dans son incantatoire et sublime élégie contre les bûcherons de la forêt de Gâtine. Il disait « Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la douce écorce ?» Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, déjà, Ronsard, au XVIe siècle, se fait l'écho de ce problème. C'est pas nouveau.
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivent dessous la dure écorce? Combien de feu, de fer, de mort et de détresse mérites-tu, méchant, pour tuer des déesses? Adieu, vieille forêt! Adieu, tête sacrée! Tu deviendras muet, écho sera sans voix.
La mort et le bûcheron. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faîte du fagot aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesants et tâchait de gagner sa chaumière enfumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il mébat son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos? Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts? Le créancier, la corvée, lui font un malheureux à la pointure achevée. Il appelle la mort, elle vient sans tarder. Lui demande ce qu'il faut faire. « C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. » Le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes.
On poursuit avant de traiter d'une deuxième grande partie. Et, les arbres protecteurs, lieux de culte ou de superstition, c'est encore un volet de...
Ah oui, bien sûr, oui, c'est un grand volet, parce que dans le monde entier, il existe encore des coutumes qui montrent à quel point l'arbre peut être source de croyance et de vénération. Vous avez des arbres chapelles, des chênes à la Vierge, des arbres guérisseurs. J'ai des photos donc de Belgique, là, à Jurbine et à Tendue-Bruges, ou à Bonneuvre, en Loire-Atlantique. Ça se perpétue une coutume païenne. C'est des arbres à clous ou des arbres fétiches. Donc, on peut dire que ça peut être un chêne d'arbres guérisseurs et couvert de clous ou de vêtements de malade afin que les pouvoirs de l'arbre guérissent leurs propriétaires. Moi, je me souviens de donc déjà, mais c'est pas nouveau, hein. Déjà en Franche-Comté, donc c'était la séquanie, hein, donc les arbres avaient déjà dans certains arbres remarquables, dans des grands carrefours de communication, l'arbre avait une figurine, de la déesse Séquane dans l'arbre. Et puis, donc, on se réunissait là et on implorait la déesse donc, pour le voyage. Hein. Et même, je me souviens, donc, toujours, dans les, un peu plus haut, là, c'est dans les sources de la Seine, hein, eh bien, les gens venaient pour... Ils avaient mal au bras, il y avait un sculpteur sur place, il vous sculptait un bras, et on jetait ce bras en bois dans les sources de la Seine en disant que ça va vous guérir. Hein. D'ailleurs, à Dijon, vous avez un musée remarquable de tous ces ex-voto qu'ils ont récupérés justement dans les sources de la Seine. Donc c'est pas nouveau, hein, donc ça a toujours existé. Et on voit donc des crânes, hein, des comme des masques, hein, qui ont été récupérés. Si un jour vous avez l'occasion de faire une belle visite, allez à Dijon voir ce musée donc avec ses ex-voto. On voit même une statue d'un jeune qui est pris de priapisme. On voit cette statuette et donc elle a été jetée dans l'eau, récupérée, et on nous la montre donc dans ce musée. Hein.
Alors vous parlez bien de traditions païennes, de traditions donc
traditions païennes
qui sont en porte-à-faux de la religion et puis qui parfois s'y mêlent.
Voilà. Mais la religion chrétienne a tout fait pour récupérer, hein, donc on a changé donc la déesse Séquane par la Vierge Marie, et on a essayé donc d'éliminer, hein, ces traditions païennes, hein. Mais cette tradition existe encore. Vous n'avez pas besoin d'aller si loin, hein. Vous allez devant le château de Filin, hein, vous montez un petit peu dans l'autre côté de la rivière et vous avez un tilleul à petites feuilles avec une Vierge. D'ailleurs, c'est bien marqué, hein, avec ici les gens viennent un peu prier, hein. Vous avez un peu plus loin, après Vieux-Filin, donc vous avez le fameux chêne de l'Aisne, de la ferme de l'Aisne. Je me souviens qu'il y a 2-3 ans, donc l'Est républicain était venu me demander où est-ce qu'il y avait un de ces chênes. On est allé donc à ce chêne qui est entouré d'une magnifique haie de Thuyas impervirens. Et quand on est allé, le fermier du coin avait apporté une gerbe d'orge et de blé en remerciement de la bonne récolte. Donc ces deux gerbes étaient pas scotchées, mais disons cloutées auprès en dessous de la Vierge, qui avait déjà des fleurs, qui avait déjà des ex-voto, quoi, hein. Et ça existe encore, hein. Vous allez quand vous allez à Besançon, vous avez vous tournez à Yette, là, et en allant sur Fondrement, et bien juste à l'entrée du grand bois de Fondrement, vous avez d'ailleurs un chêne qui est entouré de fer forgé, et vous avez une statue de la Vierge. Bon, bien sûr, ce sont des rites qui sont encore conservés, mais je parle de la ferme d'Éridée, là, le chêne de l'Aisne. Eh bien, à ce chêne, hein, à un moment donné, au moment des processions et au moment du 15 août, hein, cet arbre est décoré comme un reposoir, avec des grandes gerbes de fleurs, de glaïeul blanc, d'arômes. Faut voir un petit peu cette décoration, hein. C'est toujours valable, hein. Alors bien sûr, vous avez cette tradition, hein, donc comme vous avez ça peut être aussi une allée de tilleuls comme à Velfaux, hein. Vous avez donc l'allée de tilleuls de Sainte-Anne, parce que cette statuette de Sainte-Anne a été retrouvée par un veuf. C'est toute une histoire, hein. Alors cette statuette avait été donc déterrée par les pattes d'un bœuf, et quand on l'a trouvée, on s'est rappelé qu'ici il y avait un oratoire, et que pour éviter donc que la statue de Sainte-Anne soit volée par les agresseurs, donc elle avait été enterrée là sous l'oratoire. Et donc c'est le bœuf qui est venu. Alors on avait descendu dans l'église, et le lendemain matin, quand on a voulu reprendre la statue, elle avait disparu. Alors on dit, comment est-ce qu'elle part? Alors il y en a un qui dit, elle est peut-être retournée là-haut, sur la colline de Sainte-Anne. Et effectivement, elle était retournée. Alors on a repris donc cette statuette, et on l'a redescendue dans l'église de Velfaux. Mais là, ça avait déjà fait tout le tour de Echnaul-Sec, de Navenne, de Vesoul, de Echnaul-Amélin, Noidan, tous les gens affluaient. Et donc, on s'est dit, écoutez, là, nous, on va monter la garde cette nuit devant l'église. Donc, le curé a fermé l'église, la statuette était à l'intérieur, et le lendemain matin, donc, il y a un petit rigolo, un des vigies, qui a fait la courte échelle à un autre copain qui était là pour voir à travers les vitraux si la statue était toujours là. Oh, la statue avait disparu. Comment? Personne n'a pu rentrer, donc on est allé réveiller le curé, on a repris la clé, on a bien constaté, donc que la statuette avait rejoint le haut de la colline. Alors bien sûr, ça a été la nouvelle a été comme une envolée de moineaux, hein, a été répandue partout, alors ça a été vraiment l'affolement. Et c'est depuis ce jour-là qu'on a laissé la statuette de la Vierge à Belfort, on en a fait un oratoire, une chapelle, avec donc un ermitage. Et donc, tout, voilà, donc vous avez toute cette allée de tilleuls. Hein. Alors bien sûr, il y a des tilleuls qui sont morts, on les a renouvelés. Et chaque année, d'ailleurs, j'ai assisté avec une bénédiction avec le père Daval, hein, puisque s'il y a une exposition de vieilles voitures dans la belle saison, j'ai une photo où je vois le curé Daval accompagné d'un lion, hein, d'une peluche de lion. Et il bénit donc toutes les vieilles voitures. En principe, c'est des Peugeot.
Hein, des Peugeot, mais 403.
Oui, voilà, c'est ça, dans le 404. Et donc, oui, c'est tous les ans, c'est encore... C'est des rétentiens, mais qui reviennent d'une autre façon, vous voyez.
Donc les voitures sont bénies.
Voilà. Donc, et puis les gens avec, hein, bien sûr. Il y a même une messe qui est dite à cette occasion. Voilà, vous voyez.
En tout cas, il est bon sur Fréquence Amitié Vesoul de faire référence à ces sites en Haute-Saône, à ces histoires en Haute-Saône, à ces arbres et tout ce qu'on peut y trouver.
Bien sûr, ouais. Hein, vous avez énormément, même en forêt de Chaux, hein, vous avez même à la limite de la Haute-Saône, en descendant, là, à Brésillé, donc à côté de l'abbaye d'Assé, un arbre qu'on appelle le bouffeur de vierge. Alors pourquoi ? Parce que l'arbre, on met dans le creux, hein, dont de sa fourche, une statuette, et puis donc bien sûr l'arbre, lui, dès qu'il voit qu'il y a un corps étranger, va essayer de l'englober, il va essayer de, avec son bourrelet de cicatrisation, de manger et ben de manger donc ce corps étranger. À l'occasion, c'est une statuette, une vierge. Alors, il y a marqué Ave Maria, et au-dessus, on voit la Vierge. Donc, dernièrement, ils ont refait la route, et ils ont fait bien. Les ponts et chaussées se sont bien arrangés pour faire un détournement, de dévier la route, pour protéger cet arbre, qui est un monument. Hein, c'est pas parce que c'est un arbre sacré, mais aussi c'est un arbre remarquable. Maintenant, ça fait partie de notre patrimoine, donc il faut le conserver, le protéger. Alors, comment on l'appelle, le bouffeur de vierges, et comme il est à côté de l'abbaye d'Assé, hein, la légende veut que, quand la Vierge est complètement englobée, hein, tout au moins digérée par l'arbre, et que les moines de l'abbaye d'Assé viennent le 15 août en procession et remettent une nouvelle Vierge. Ça, c'est la légende, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer donc le père supérieur de l'abbaye, et je dis, voilà, moi, je voulais vous poser une question, et je lui ai raconté mon histoire, et il m'a dit, monsieur Leloup, non, ça, c'est la légende, hein. Mais on y va quand même, quand on passe auprès de cet arbre, bien, on fait une petite prière à la Vierge, mais on ne vient pas en procession d'en remettre une autre. Bon, vous voyez, les légendes, comment elles se créent aussi.
Mais on peut remarquer donc en société moderne, en 2012, qu'il y a toujours ce respect dû aux arbres, et donc les ponts et chaussées.
Oui, bien sûr.
Les autorités s'arrangent pour ces contournements, pour justement pérenniser cette tradition.
Oui, mais inconsciemment, vous savez, vous dites, c'est un arbre sacré. Donc, si je vais contre cet arbre sacré, qu'est-ce qui va arriver à ma famille, même si j'en ai pas la conviction? Mais il y a toujours une arrière-pensée. Il y a l'inconscient qui travaille, hein, puisqu'on peut dire que dans chaque être humain, hein, on réagit 90% à l'inconscient.
Elle dort au milieu des serpents. Sous la tonnelle, près des marais, les yeux au-delà des diamants, qu'elle a incrustés dans ses plaies. Elle dit ses pas Saint-Augustin. Dans les bois, et Paganini encore moins. Ça semble étrange, mais je la crois. J'ai rien entendu par ici.
du siècle n'est ma mémoire. Au fil des brouillards et des nuits, se perd dans les ombres du soir. Là-bas, plus loin, coule une rivière qui nous sert de démarcation. Enfin, je veux dire, pendant les guerres, quand on a eu une occupation, spectre des morts lumineux se promène la nuit sous les saules, et ce qu'oublie de faire un vœu, en perdent soudain leur self-contrôle. On les trouve collés à la pluie, depuis des siècles et ma mémoire. Au fil des brouillards et des nuits, se perd dans les ombres du soir. J'ai vu pas mal de filles tomber souvent là-bas du haut du pont. Et faire semblant de se noyer, en chevauchant leurs illusions. Elle me fixe tendrement, elle caresse un aspirine, rien vu de tel depuis longtemps. Oh non, rien de tel, mon ami. Pas vu de telles orgies ici. Depuis des siècles, ma mémoire. Au fil des brouillards et des nuits, se perd dans les ombres du soir. Au souffle brumeux des vipères, elle me montre du doigt la sphègne où Triton salamandre en guerre se bat au milieu des châtaignes. J'ai déjà, me murmure-t-elle, qu'il faut séduire pour mieux détruire. Et dans un geste et des bruits d'ailes, elle disparaît dans un sourire. Puis elle revient, elle me poursuit. Depuis des siècles, ma mémoire. Au fil des brouillards et des nuits, se perd dans les ombres du soir. Oh, elle joue avec ses serpents. Sous la tonnelle, près des marais. Mais ses visions ne durent qu'un temps. Et le temps lui-même disparaît. Les heures se courbent dans l'espace. Et tournent autour d'un monde ancien. Où les lunes s'estompent et s'effacent. En glissant sur un flux sans fin. D'aucuns en cherchent la sortie. Depuis des siècles, ma mémoire.
Entre Port-sur-Saône et Cy, il y avait à la sortie de la forêt sur la droite un arbre sacré avec une vierge. Bon, ben, des jeunes voyous, des jeunes ont saboté, ont mis le feu à cet arbre. La Vierge a été récupérée, a été remise dans l'église de Cy, mais on voit encore cet arbre avec le logement où était Vierge, et on voit encore ses ex-voto. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a des... vous avez des gens qui n'ont aucun respect, hein, surtout des fois c'est des jeunes, hein, samedi soir en ayant bien bu, ah, moi je suis plus fort que le monde, hein, vous allez voir que moi je ne crains rien, puis donc c'est de la gloriole, hein, mais c'est du vandalisme, quoi. Mm-hmm. Voilà.
D'accord. Et donc peut-être avez-vous travaillé sur ces sites en Haute-Saône, avez-vous recensé un nombre certain d'arbres sacrés sur le département?
Ah oui, 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 il y en a énormément, hein. Même près Combeau-Fontaine, quand vous prenez sur la route de Champlit, eh bien, vous avez sur la droite deux arbres remarquables, qui sont formidables. Hein. Donc, vous avez des arbres pas remarquables, mais des arbres sacrés. Hein. Donc, vous en avez un peu partout, hein, dans le coin.
D'accord.
Vous en avez, oui, oui, oui.
D'accord.
Et puis, alors, surtout, je vous parlais de la forêt de Chaux. Eh bien, là, vous en avez cinq ou six. Et en 94, le syndicat d'initiative en a protégé un, donc avec une grille, hein, c'est des arbres à la Vierge, hein, et il y en a plusieurs, alors vous pouvez aller vous promener en forêt de Chaux, donc en suivant un itinéraire qui vous est fourni par le syndicat d'initiative de Dole.
D'accord.
Et donc ces arbres sacrés, eh bien, ça permet de vous promener, hein. Vous avez même au baraque 14, là, dans le village des Charbonniers, un arbre à vœux. Donc là, vous avez donc la possibilité, hein, de décrire sur un petit bout de papier ce que vous souhaitez et d'aller le mettre dans l'écorce du chêne. Alors vous avez des milliers et des milliers de petits papiers, là, comme vous voyez. Bon, mais ça, c'est des vœux que les gens ont déposés. Donc, s'ils l'ont déposé, c'est qu'ils y croient.
Très bien. On va pas tarder à en terminer aujourd'hui, c'était une introduction aux arbres sacrés. Je relève ce que vous dites, l'arbre à vœux. Je crois savoir que vous avez participé au moins en tant que spectateur au Festival de cinéma d'Asie de Vesoul.
Oui.
Et donc trônait à l'entrée du cinéma, c'est le cas depuis au moins 3 ans pour
voilà.
Ce festival, un arbre à vœux, oui. Dans la tradition asiatique. Donc où l'on écrit un vœu sur un bout de tissu que l'on noue à l'arbre.
Voilà, c'est ça. Mais ça existe toujours. Vous voyez, la preuve, c'est que là, vous parlez d'un fait qui n'a même pas 8 jours. Hein. Donc, ça, c'est vrai. Ben oui, ben, les gens en Asie sont très mystiques. Hein. faut bien vous dire hein, que même si Mao est passé par là, hein, ils n'ont rien oublié du passé de leur tradition. Hein. Alors, et surtout au Japon. Au Japon,
également, qui est très voilà, urbanisé, oui. très dense.
Oui. Vous avez surtout dans des régions comme... comme la Corée, hein. Donc en Corée, vous avez donc la possibilité donc de voir encore le d'abord faut dire que le soleil, les grues, les nuages, les rochers, les pins, hein, sont tous des symboles de longue vie. Donc et les pins en particulier, donc c'est si vous apportez quelque chose, tout moins un petit papier ou une amulette que vous déposez auprès d'un pin, eh bien c'est une source de bonheur et d'éternité. Hein. Donc en Corée c'est encore valable, vous voyez ce genre de choses, hein. Parce qu'ils vénèrent encore donc toutes ces choses. Hein. Je vous avais dit, hein, tous les arbres avaient une âme, ils étaient habités par des esprits dont ils formaient le corps. Donc beaucoup, c'est valable dans le monde entier.
Dans le monde entier, voilà. Ouais. Très bien.
Et je vous parlais, j'avais pas terminé là.
Pardon.
Oui. Hein, je vous disais que en Belgique, il y avait des arbres à clous. Hein. Alors après, je suis parti sur les ex-voto là. Mais il faut savoir que c'est l'arbre guérisseur est couvert de clous ou de vêtements de malades afin que les pouvoirs de l'arbre guérissent leur propriétaire. Hein, c'est des clous qui ont touché la partie malade et on vient le mettre dans l'arbre. Ils existent encore, hein, puisque je vous dis, hein, donc en Loire-Atlantique, il y en a encore. Vous avez dans la Somme aussi, à Saint-Nerpont, hein, il est recouvert de bandages, de chaussettes, de gants, de chaussures, de soutien-gorge, de nombreux vêtements d'enfants quand même, hein, c'est surtout pour les enfants. On a même vu des poussettes accrochées à son tronc, aux branches. Vous voyez, donc c'est toujours valable. Hein. Parce que les pèlerins viennent chercher une guérison en y attachant les objets appartenant à leur malade. Alors pour les clous, ben, il faut qu'ils aient au moins touché la partie malade de la personne. Hein. Et puis alors, donc ça fait transférer le mal, hein, de la personne donc, dans l'arbre et donc vers les cieux.
D'accord.
Donc vous savez aussi que le clou est un symbole et fait référence au clou du Christ sur la croix. Hein, donc, c'est souvent pour ça aussi, hein, faut bien.
Alors, j'avais une pensée, oui, l'arbre prend possession de ce qui est accroché à lui dans sa croissance. Et puis, voilà. J'avais une pensée, on parlait des faits païens, des récupérations chrétiennes. Oui. Et j'avais une pensée pour cette croix du Christ et son père adoptif, charpentier. Enfin, on en revient toujours au bois et
bien sûr,
à l'arbre. Donc dans son utilisation.
Oui, bien. Et vous savez que donc tous les arbres ont un symbole aussi. Alors donc les arbres qui ont été plantés dans les cimetières, donc en Angleterre et en Bretagne, dans le nord de la France, hein, ce sont des ifs, hein, le Taxus baccata. Mais dans le Midi, ce sont des cyprès. Hein, et qui vont jusque dans tout le bassin méditerranéen. Et ce cyprès, vous la voyez, comme une flamme qui ne s'éteint jamais et qui est toujours vert. Donc on a bien pris soin de choisir des arbres avec forte symbole pour mettre dans les cimetières. Parce qu'on dit, voilà, il va avec ses puissantes racines jusque dans la tête des morts, hein, pour chercher donc, alors sans sa subsistance bien sûr, mais aussi l'esprit des morts, pour les emmener vers le ciel. Voilà. Donc, bien sûr, il y a tout cet esprit. Hein, voilà. Au moment des funérailles, il y a toujours des rites, surtout en Afrique. Voilà.
Très bien. Rémi Leloup, vous êtes venu nous parler des arbres sacrés. Je crois que l'on inaugure avec ceci une série d'émissions, puisqu'il ne s'agissait là que d'une partie d'une conférence que vous avez donnée et nous vous recevrons à nouveau pour développer sur ce sujet. Nous avons pu découvrir cette introduction aux arbres sacrés, voyager à travers le monde, à travers les origines du monde, les rites et je vous en remercie grandement. Donc il y aurait encore énormément de choses à développer sur ce sujet.
Bien sûr, oui, alors donc on peut tirer des leçons de ces croyances multiples à caractère universel. Hein. Bon, je ne vais pas faire de conclusion aujourd'hui, puisque vous dites qu'il y aura encore d'autres émissions.
Voilà, on va donner envie aux auditeurs de vous retrouver pour les suites de ces raisonnements, de ces recherches.
Oui. Mais vous savez que dans notre époque de crise comme la nôtre à l'heure actuelle, hein, l'homme n'aurait-il pas intérêt à retrouver le sens d'une entente avec la nature, d'une harmonie cosmique qu'il a pour son plus grand drame, souvent perdu, hein. Voilà, ça sera mon mot de la fin.
C'était un très joli mot, je vous en remercie.
À tout le monde, donc, bonne journée et à bientôt. Au revoir.
Merci.
Vous représentez un arbre que vous avez connu ou particulièrement aimé. Cet arbre, vous le placez dans le cadre de votre choix. Vous êtes à l'écoute. Deux. Vous n'avez qu'une idée. Trois. Vous êtes heureux. Vous êtes calme et fort. Calme et fort. Un. Deux. Trois. Devenez cet arbre. Deux. Vous êtes un arbre. Un, deux, trois. Devenez cet arbre. Deux, trois. Vous êtes un arbre. Et grâce à votre imagination, percevez le bleu du ciel, les petits craquements, le chant des oiseaux, les nuages.
Retenez votre souffle.